Bonsoir. Je voulais d'abord vous remercier d'être venus si nombreux pour ce sujet important aujourd'hui. Le passeur, une figure de héros, une figure de criminel. Qui est-il réellement aujourd'hui, ce passeur ? Est-ce qu'il est seulement ce trafiquant d'êtres humains qu'on dépeint souvent dans les médias et dans les grandes déclarations politiques, qui est souvent désigné comme le principal responsable des drames de la migration aujourd'hui ? Comment son image s'est-elle transformée entre la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide et aujourd'hui? Que signifie cette criminalisation qui s'est produite en 50 ans, ce retour à la figure du passeur criminel? Qu'est-ce qu'elle signifie aujourd'hui pour la politique d'asile, les politiques migratoires, pour nos démocraties? Quelles conséquences a-t-elle? Et aussi, on peut se poser la question du rôle que jouent les médias dans cette évolution. Toutes ces questions, qui sont très importantes, surgissent dans le contexte d'une actualité vraiment dramatique. Si on regarde un peu le contexte, on se rend compte, moi je parle même juste de ces trois dernières semaines. Vous avez certainement vu les brèves et les articles dans les journaux. Il y a eu 150 morts en trois semaines, dont plus de 20 enfants en bas âge, en Méditerranée. On assiste à la fermeture des frontières dans notre Europe, où on a le sentiment que les accords de Schengen est peut-être en train de se terminer. Enfin, il y a une vraie question. Les routes migratoires deviennent plus périlleuses. Et politiquement, que va devenir Schengen? On est vraiment à un moment clé. On assiste aussi petit à petit et de manière peut-être plus insidieuse à des difficultés réelles de l'immigration qui délite, qui écorne notre état de droit. Les politiques populistes, on le voit en poupe. On va voter dans quelques semaines sur le renvoi des criminels étrangers. On abandonne petit à petit toutes les conventions internationales, en tout cas on les écorne, ces conventions internationales que les pays ont signées après la Deuxième Guerre mondiale pour essayer de ne plus reproduire les horreurs du passé. Donc c'est vraiment dans ce contexte qu'il est essentiel de réfléchir à la figure du passeur. Parce que ce passeur, aujourd'hui, il est un peu désigné comme un bouc émissaire, comme une figure un peu diabolisée. On a vraiment le sentiment que c'est le grand responsable, comme s'il y avait un déplacement de la responsabilité des drames de la migration sur la figure du passeur. Rien que ces quelques dernières semaines, j'ai aussi fait l'exercice de feuilleter un petit peu les journaux pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme nouvelle, actu, sur les passeurs. Alors j'en ai trouvé trois dans nos journaux francophones sur la condamnation des passeurs. Il y a eu 5 bénévoles espagnols et danois qui ont été condamnés, qui sont arrêtés en ce moment pour avoir aidé à tirer un bateau chargé de migrants dans les eaux grecques. Il y a une bénévole de 72 ans française qui a reçu 1500 euros d'amende pour avoir aidé un mineur érythréen et une jeune fille érythréenne à passer d'une gare à une autre pour prendre un train, évidemment en essayant de leur faire éviter la police. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a eu une Anglaise qui a été condamnée à de la prison ferme, 3 mois de prison et 9 mois de sursis, pour avoir caché un adolescent syrien dans le coffre de sa voiture pour le faire passer sur le ferry en Angleterre. J'ai trouvé aucune nouvelle de filière de passeurs criminels mafieux démantelés. Voilà, c'était juste une indication par rapport à l'actualité aujourd'hui. Donc pour éclaircir cette figure complexe du passeur, nous accueillons aujourd'hui 3 personnalités de 3 horizons différents, ce qui, j'espère, va nous aider à appréhender cette question de manière multiple. Monsieur Niels de Dardel, qui vient d'un horizon juridique, mais qui est aussi très proche d'un historien, puisqu'il a beaucoup travaillé sur les questions de fonds en déshérence et du rôle de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Madame Cécile Amarel, conseillère nationale, qui va nous parler plus du politique et des politiques aujourd'hui. Et Robin Stunzi, du Forum suisse de l'étude de la migration, qui vient du monde académique et de la recherche, et qui va nous aider aussi à comprendre un peu aujourd'hui exactement ce qu'on sait sur toutes ces choses. Voilà, bah écoutez, je crois que je vais commencer par faire un tour de table et commencer par Robin Stunzi, qui est vraiment dans l'actualité et va nous parler un peu de l'état des lieux, de qui sont ces passeurs aujourd'hui. Je passerai ensuite la parole à Madame Amarel sur un plan plus politique, et on reviendra en dernier sur l'histoire et l'évolution de la figure du passeur dans l'histoire. Donc, Monsieur Stunzi, je voulais vous poser comme ça en vrac quelques questions. Si vous arriviez à nous dresser un état des lieux du rôle des passeurs aujourd'hui, vraiment de voir qui ils sont, est-ce qu'il y a des figures diverses, hein, quel rôle ils jouent dans la migration et quel impact ils ont sur les politiques migratoires, hein. Et moi, ça m'intéressait de savoir quelles étaient les sources de vos informations pour qu'on comprenne mieux les points de vue. Voilà. Merci.
Bonsoir. D'accord. Alors, plusieurs questions. Je vais peut-être commencer par la dernière que vous avez mentionnée. Pour les sources, en fait, c'est clair qu'on a affaire ici à une activité illégale. Donc, par essence, c'est très difficile d'aller rechercher, d'avoir des bonnes informations sur ce qui se passe en ce moment et puis pour identifier les acteurs. En général, on travaille, nous, dans la recherche académique, avec des sources qui sont des rapports et qui viennent plutôt du monde policiers ou des gardes-côtes, ça c'est une chose. Maintenant, il y a aussi des journalistes, des fois, qui sont infiltrés et qui peuvent donner certaines informations. Mais une source importante concerne les migrants eux-mêmes, en fait, qu'on va interviewer et on va faire des entretiens pour comprendre un peu comment ça se passe et comment ils sont en contact avec différents passeurs et des passeurs eux-mêmes, des personnes qui ont été eux-mêmes impliquées dans ces activités. Donc ça, c'est déjà une première chose. Maintenant, peut-être juste pour identifier un peu les acteurs, comprendre qui ils sont, déjà, peut-être faire une première distinction qui me semble importante parce que souvent on fait la confusion, c'est entre passeurs, là on va parler du trafic de migrants en français, smuggling en anglais, et qui concerne le fait de faciliter le transport ou l'entrée illégale de personnes ou la résidence dans un pays, ça c'est une chose. Et l'autre activité qu'on lit parfois, c'est la traite des êtres humains, le trafficking en anglais, et là qui concerne l'exploitation des personnes, où on va avoir des activités d'extorsion, d'esclavage, etc. Et ça, c'est deux choses qu'il faut distinguer déjà, mais souvent on a tendance à les confondre, en fait, aussi pour des raisons instrumentales, peut-être qu'on y reviendra aussi. Donc, pour ce qui est vraiment, ce soir, on parle vraiment des passeurs, donc ceux qui facilitent juste le transport de personnes, et puis là, dans ce cadre-là, on a... il faut comprendre aussi qu'on a ici une gamme d'activités différentes, en fait, sur cette activité-là des passeurs. Et puis là, les profils puis les motivations des personnes, elles sont extrêmement diverses. Dans un cas typique de passeurs, c'est comme une industrie, en fait, qui vient remplacer, en fait, une structure qui n'est pas là parce que les politiques ne le permettent pas. Et on a souvent... la plupart du temps, un ou plusieurs coordinateurs, des personnes qui sont un peu des têtes pensantes et puis qui prennent la responsabilité des opérations. C'est des gens qui sont souvent bien connectés dans plusieurs pays différents. On a aussi des recruteurs, des personnes qui vont après chercher des migrants jusqu'à arriver à un nombre critique, le nombre de personnes qui seront après transportées dans un bateau, dans un bus, etc. On a aussi justement des transporteurs, des personnes qui sont, et puis des guides, les personnes qui vont gérer le côté vraiment opérationnel, qui vont faire traverser les personnes. Et là, souvent, c'est des locaux, en fait. C'est des personnes qui sont, on voit par exemple dans cette année, cette frontière turque avec la Grèce, c'est beaucoup des Turcs en fait qui font les trajets. Et puis parfois, dans ces transporteurs, on a des transports, parfois des entreprises de transport qui sont bien établies, hein, qui sont officielles, mais qui, pour arrondir leur fin de mois un peu, si on veut bien, qui vont se livrer à ces activités-là. On a aussi, quand même, ça il ne faut pas l'oublier, toutes sortes de fournisseurs de biens et de services qui font partie de cette industrie un peu là. On a ce symbole de cette année 2015 qui est le gilet de sauvetage. Ben voilà, toutes les personnes qui vont après vendre ces gilets de sauvetage, est-ce qu'on peut les... Ils sont théoriquement inclus dans toute cette industrie en fait, des passeurs. Est-ce qu'ils sont aussi responsables que d'autres? Là, c'est important de faire justement ces distinctions. Et puis, on a aussi souvent ce qu'ils appellent des chairmen, des gens qui sont des espèces de présidents des régions, comme ça, qui sont eux-mêmes des migrants, souvent, qui sont situés dans des endroits stratégiques, par exemple en Libye, à Koufra, dans des points un peu frontières, comme ça, et qui ont tissé des relations avec des locaux, avec les autorités locales, et puis qui fournissent différents services à des membres de leur communauté, en fait. Et donc, par rapport à toute cette gamme d'activités, on a évidemment des profils puis des motivations qui sont très différentes. Ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que les motivations aussi, bah, c'est clair, c'est financier, hein, dans la grande majorité des cas, mais pour beaucoup d'entre eux, quand on va les interroger, ils n'ont pas forcément l'impression de faire un acte répréhensible. Enfin, des fois, ils vont nous dire « Non, mais moi, j'aide des personnes qui sont de ma communauté, en plus, à fuir des situations extrêmes. » Et donc, il faut aussi voir cet aspect-là. Peut-être que je vais m'arrêter là. On pourra prendre encore d'autres cas par la suite. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions.
Tout à fait. On voit bien la diversité. Moi, ce que j'avais aussi envie de savoir, c'est est-ce qu'on arrive à... Donc, j'ai bien compris la différence entre la traite et l'exploitation d'êtres humains, qui est souvent confondue, je pense, dans les médias quand on en parle, avec le fait de faire juste passer des gens, même contre une somme d'argent. Mais ma question, c'est ces structures, finalement, qui se mettent en place, qu'elles soient très organisées ou des petits bouts organisés, suivant le trajet, je pense que c'est plusieurs tronçons, elles remplacent finalement, elles existent, c'est un marché qui se développe. Pourquoi aujourd'hui?
Parce que les gens ont besoin de migrer. Parce qu'on se retrouve, il y a deux. En fait, partout dans le monde où il y a une politique d'interdiction de la migration ou de grosses restrictions, disons, et de l'autre côté, des personnes, des forces qui poussent à la migration. Eh bien, on a des activités de passeurs. C'est le cas pour l'Europe, hein, depuis l'Afrique, on en a beaucoup parlé. C'est le cas pour, en Amérique, entre les États-Unis et puis toute l'Amérique latine, l'Amérique centrale. C'est le cas, par exemple, aussi, on sait qu'il y a les Rohingyas qui fuient la Birmanie pour parvenir en Malaisie ou en Thaïlande. Ils utilisent aussi des passeurs. C'est le cas en Afrique de l'Est, des Somaliens ou des Éthiopiens, des Érythréens qui passent dans les pays du Golfe. Ils utilisent aussi des passeurs. Donc, ils migrent et puis ils retrouvent une politique d'interdiction en face. Donc, cette industrie qui vient se mettre, qui vient utiliser ces canaux-là.
Ça, c'est clair. Ma dernière question un peu plus précise, c'est quelle part, on parle beaucoup de grande criminalité, de mafia, de trafic, quelle part est-ce que vous, dans vos recherches, vous arrivez à évaluer la part de la grande criminalité dans ces réseaux-là? Parce que là, vous ne parlez pas de grands criminels.
Non, là, enfin, disons que le rôle de la grande criminalité, de la criminalité organisée, il n'est pas très clair, disons. Enfin, ben, c'est clair, comme je le disais d'emblée, c'est quand même des fois difficile d'obtenir ce genre de renseignements. Par définition, c'est des activités qui sont illégales, donc c'est un peu difficile. Mais ce qu'on a tendance à observer, c'est clair que dans le discours et puis dans la criminalisation de cette activité, on a tendance à dire c'est lié. Mais en réalité, on se rend compte que c'est pas vraiment pas forcément le cas, parce que d'une part, Ben, justement, comme je l'expliquais avant, toute cette gamme d'activités en fait, qui vient se mettre dans cette industrie, ce n'est pas forcément facile de toute la coordonner ensemble. Enfin, je veux dire, souvent, ben, je vous parlais justement des gens qui vendent des gilets, ou des, etc. Ça ne fait pas partie d'un même ensemble, et c'est plutôt des fois des alliances un peu par occasion qui se mettent en place. Et puis, ben, l'année passée, on a beaucoup parlé de cette route migratoire justement qui fait la Turquie, la Grèce, et puis après les pays des Balkans, et ben là, on se rend compte, avec les sources qu'on a, que la criminalité organisée, elle a peu de rôle. En fait, c'est quelque chose d'assez artisanal, on s'est rendu compte, avec des petits groupes de personnes comme ça, qui vont acheter des bateaux, qui vont payer des recruteurs, payer des pots de vin aussi. Il y a quelque chose qui est très important et que je n'ai pas mentionné avant, c'est le rôle de la corruption, hein, aussi, avec des autorités locales qui sont corrompues à différents échelons et qui interviennent à différents échelons. Ça, c'est clair, c'est presque toujours le cas. Mais le rôle de la grande criminalité, il n'est pas forcément clair. Ça existe sur certaines routes migratoires. Les routes, par exemple, qui mènent depuis l'Afrique de l'Est ou l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Libye, souvent, il y a des routes qui sont... Les personnes qui organisent ces trafics, ils peuvent être liés à d'autres trafics d'armes, de drogue, etc. Et ça, on s'est rendu compte que c'est parfois le cas. Il y a aussi, par exemple, sur la route qui mène de l'Amérique centrale ou de l'Amérique latine vers les États-Unis, au Mexique, par exemple, on sait que les grands cartels de la drogue, ils enlèvent les migrants. Mais alors là, pour le coup, ce n'est pas des passeurs. C'est des trafiquants et des bandes criminelles qui vont plutôt, au contraire, immobiliser en fait, les personnes plutôt que de faciliter leur transport. Et puis, ils vont profiter de cette situation. Et là, il y a un rôle de la criminalité organisée.
Merci. Ouais, c'est très intéressant, en tout cas, de voir ça. Madame Amarel, je crois qu'on va passer à vous, juste pour avoir un peu plus de précision sur... moi, ce que j'avais envie de comprendre aussi, c'est quelles étaient les mesures politiques qui avaient été prises ces dernières années en Suisse, en Europe, à l'encontre des passeurs. C'est quoi le portrait un peu de ces mesures? Est-ce qu'elles sont efficaces? C'est juste un effet d'annonce, c'est leurs conséquences réelles. Et quelles sont leurs conséquences sur les migrants, sur la migration et sur les politiques migratoires, et aussi en dernier lieu sur la solidarité entre humains, l'état de droit, etc.
Alors, je dirais pour prolonger ce qui vient d'être dit par Robin Stunzi, c'est vrai que le rôle des politiques dans cette question, elle a surtout été en amont, si vous voulez, c'est-à-dire de contribuer à complexifier et à problématiser encore plus la situation, puisque, comme ça a été dit, vous avez d'un côté une augmentation des mouvements migratoires qui est très forte et qui est extrêmement intense depuis surtout l'été 2015, avec justement ces crises humanitaires, enfin ce qu'on appelle des crises humanitaires, le printemps arabe, l'attractivité de l'Europe qui est extrêmement forte, et puis cette forte attractivité qui se combine avec une très forte dangerosité, puisque, et là le rôle de politique est très clair, puisque les politiques, en tout cas dans tous les pays d'Europe, y compris en Suisse, ont contribué à limiter de manière drastique les voies de migration légale. Donc vous avez ce cocktail explosif entre une forte attractivité liée à ce qu'on appelle entre guillemets des crises. Les spécialistes en sciences humaines n'aiment pas ce terme, mais je le dis par raccourci. Et puis de l'autre, la limitation des voies de migration légale. Ça passe, le politique est responsable de la suppression des demandes d'asile aux ambassades. Ça passe par un durcissement général du droit d'asile, durcissement général du droit des étrangers ordinaires, c'est-à-dire de la migration du travail, durcissement aussi accessoirement de la loi sur la nationalité un peu dans tous les pays européens, et puis une pénalisation, c'est là où j'en viens au rôle direct du politique, une pénalisation, une criminalisation en fait des transporteurs. On a un phénomène qu'on appelle la privatisation en fait, des contrôles des frontières par le biais de deux directives européennes qui ont été transposées sans aucun problème dans le droit suisse, c'est-à-dire la directive qui constitue, si vous voulez, une criminalisation des transporteurs. Donc tout transporteur a peur d'être condamné pour trafic, pour pour activité de passe, si vous voulez, puisqu'il doit contrôler le caractère régulier des personnes qui sont sur son navire, sur son bateau, sur son avion, etc. Et puis une privatisation aussi à l'intérieur des pays, puisque toute personne qui emploie ou qui héberge en fait une personne en situation irrégulière est passible de condamnation. Donc, si vous voulez, c'est un cocktail à la fois explosif et puis une criminalisation avec une privatisation des contrôles de l'immigration illégale à l'intérieur des pays par le biais des transporteurs et par le biais de toute personne à l'intérieur du pays qui pourrait loger ou abriter ou employer en fait une personne en situation irrégulière. Et donc, dans le droit suisse, vous avez évidemment l'article 116 de la loi sur les étrangers qui a été durci aussi, qui s'appelle incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, et qui engage en fait une peine encourue à une peine privative de liberté de 5 ans ou plus, additionnée à une peine pécuniaire en cas justement d'activité d'entrée et de passe. Et puis vous avez l'article 118 aussi qui s'appelle comportement frauduleux à l'égard des autorités si vous avez effectivement dissimulé des faits essentiels par rapport à des personnes qui sont en situation ici. Et donc je dirais, si vous voulez, pour la deuxième question, est-ce que c'est efficace ou pas ? Alors si vous voulez, moi j'ai regardé un peu les chiffres, les condamnations pénales actuellement en Suisse pour l'année 2014, elles sont extrêmement rares. Il y a 1342 personnes qui ont été arrêtées en Suisse en 2014, dont une part non négligeable au Tessin. Et en fait, si vous voulez, les condamnations restent extrêmement rares. Parce qu'une activité de passeur, le fait de démanteler une activité de réseau, on en a encore parlé avec M. Naut, qui est le chef des gardes frontières suisses et qui a pour charge en fait de démanteler les activités des réseaux. Finalement, ça ne se fait pas tellement en Suisse. Il faut savoir que c'est plutôt au niveau de Frontex, c'est-à-dire au niveau des frontières externes à l'Union européenne, que ce travail se fait. Mais pour en revenir à votre question, il faut savoir que tous les pays européens durcissent en fait le code pénal, leur code pénal et leur loi sur les étrangers en général, l'Allemagne et l'Italie en particulier. Et si vous voulez, en 2015, par exemple, un Somalien a été condamné à 30 ans de prison en Italie pour avoir activé, en fait, était auteur de trafic de migrants parce que le bateau qu'il gérait en fait avait coulé et tué 366 personnes. Donc, si vous voulez, on n'en est pas là en Suisse. On est dans des activités, comme ça a été dit par M. Stunzi, relativement un peu classiques, avec des petits réseaux. On n'a pas démantelé de grands réseaux. Mais si vous voulez, pour en revenir à la question, moi, je trouve très important de débattre de cette question. Pourquoi ? Parce que si vous vous rappelez, en juillet 2015, quand il y a eu les premières grandes catastrophes, même si ça dure depuis les années 2000, hein, toute cette histoire, il y a à peu près 30 000 personnes qui sont mortes officiellement depuis le début des années 2000 sur cette question de passe. Si vous voulez, on voulait justifier des interventions militaires, on voulait envoyer l'armée à un moment donné pour se battre contre les passeurs. Et il y avait quasiment, on aurait pu déclencher une guerre au nom des passeurs, pour se battre contre les passeurs. Et cela a été, terrible. Et ça a été, en fait, comme à l'époque, il y avait aussi eu l'opération Atalante pour les corsaires, justement, éthiopiens, enfin, toutes ces questions, en fait, on prenait vraiment cette activité-là comme étant tellement insupportable qu'il fallait envoyer l'armée. Et finalement, ça n'a pas été fait. L'Union européenne a développé une opération différente, aussi parce que l'Italie a fait pas mal de pression. Mais si vous voulez, on est vraiment dans un sujet assez très, très sensible qui peut être de manière très forte instrumentalisée. Et je dirais que pour l'instant, les politiques n'ont pas trouvé la solution. Je dirais que pour terminer ce premier round, on est un petit peu comme dans le domaine de la drogue, si vous voulez, où finalement, on n'a que des aspects répressifs en permanence. On n'a que des solutions répressives en permanence à proposer. Et peut-être qu'à un moment donné, si on libéralisait le marché un petit peu des voies de migration légales plus fortes, eh bien, c'est clair que l'activité du passeur diminuerait de lui-même. Et de plus en plus, on a des analyses qui font le lien entre le marché de la drogue et le marché des passeurs, parce que finalement, tout est une question de libéralisation ou pas. Mais j'ouvre la question et on verra.
Merci beaucoup. Il y aura beaucoup de choses à creuser sur ces questions-là. Je vais m'adresser à Nils de Dardel sur les questions plus historiques pour prendre un point de vue. Je crois que ça marche, non ?
Oui, ça ouais. Marche.
Voilà. Bon. Pour prendre un peu de recul et essayer de voir avec un peu de distance cette image du passeur, j'avais envie de vous entendre un peu sur une perspective historique. Comment vous interprétez, vous, l'évolution de la figure du passeur ? Parce que si vous avez été au cœur de cette transformation de la figure du passeur qui, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, quand on est au présent de cette histoire-là, était aussi un personnage qui était arrêté, qui était un criminel, qui était parfois peut-être même fusillé, je ne sais pas. Et il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, cette image-là est devenue presque une image héroïque. L'image des justes hein, qui ont fait passer les juifs à la frontière suisse, qui les ont sauvés. Et si on réfléchit même dans une histoire un peu plus récente comme la guerre froide, hein, les passeurs qui aidaient les Allemands de l'Est à passer le mur et à se réfugier dans la démocratie occidentale et à fuir le communisme étaient aussi considérés comme des héros. Comment est-ce qu'on est arrivé finalement à une figure, en tout cas comme on la vit aujourd'hui dans nos médias et dans nos discours politiques, du criminel responsable des drames migrants ? Est-ce que vous arrivez un petit peu à nous raconter ça ?
Oui, d'abord je ne suis pas historien, donc j'ai été conseiller national dans le groupe socialiste de 1991 à 2003, donc pendant 12 ans. Et pendant la deuxième partie de mon mandat, donc à partir de 1995, au moment où commence d'éclater l'affaire des fonds en déshérence et puis de la remise en question du rôle de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment la question des réfugiés juifs qui n'ont précisément pas pu se réfugier en Suisse à cause de la fermeture des frontières en 1942, s'est posé de manière très, très aiguë, très, très forte. Et c'est un des aspects qui a été évoqué, et qui d'ailleurs continue encore aujourd'hui d'être évoqué, au détriment de l'image de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc je ne suis pas historien, j'ai connu l'affaire au travers de la politique, mais évidemment avec beaucoup de contact avec les historiens. Alors, ce que je peux dire simplement, c'est qu'effectivement, je crois que c'est en 2003, sauf erreur, oui, c'est en 2003, le Parlement a voté une loi pour l'annulation des jugements pénaux prononcés pendant la Deuxième Guerre mondiale contre les personnes qui avaient aidé des réfugiés à entrer en Suisse, qui avaient été condamnés pour avoir aidé des réfugiés, essentiellement des juifs, évidemment, à entrer en Suisse. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les passeurs, ils étaient très, très mal vus. Et ils ne se vantaient pas, ils agissaient clandestinement, ils étaient dans l'illégalité totale, ils étaient mal vus, surtout par les autorités, mais aussi par la population. C'était quelque chose de tout à fait condamnable que d'enfreindre l'ordre établi et l'interdiction d'entrer en Suisse sans fournir les visas nécessaires. Donc, aussi à cette époque-là, d'ailleurs, par exemple, le chef de la police de Saint-Gall, Paul Gröninger, qui, lui, avait laissé, enfin, il avait fait des faux, il avait laissé entrer probablement des centaines de Juifs à l'intérieur de la Suisse, il a été condamné. Il a été condamné pénalement. Bon, c'est le premier qui a été réhabilité parce qu'il y a une procédure cantonale qui a été faite dans le canton de Saint-Gall qui a un peu donné l'exemple et l'idée, au fond, de faire annuler tous ces jugements prononcés contre des passeurs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, évidemment, entre 1942 et la deuxième partie des années 1990 en Suisse, évidemment, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu la chute du mur de Berlin. Il y a eu effectivement des cas où les passeurs, vous les avez cités, Madame Hazan, tout à l'heure, où les passeurs étaient très, très bien vus dans l'opinion en Occident. Donc, ceux qui ont aidé, par exemple, les réfugiés cubains à aller en Floride, ben évidemment que c'était des gens formidables. La même chose pour les boat people, etc. Donc, à cause de toute la période de la guerre froide, il est évident que certains passeurs ont été très, très bien vus et considérés comme des gens tout à fait respectables. Mais, évidemment, ce qui a le plus changé, c'est malgré tout pour notre pays, n'est-ce pas, et les passeurs de la Deuxième Guerre mondiale, c'est évidemment la reconsidération de l'image que les autorités et la population suisse ont du rôle de la Suisse, du rôle des institutions suisses, de l'économie suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, ça a été quand même un bouleversement important. Je crois que pendant, en tout cas, les années 96-97, c'était un sujet politique numéro un. On lisait ça tous les jours dans les journaux. La Suisse était attaquée, sa réputation vilipendée. Et non seulement à cause des banques qui n'avaient pas rendu l'argent aux Juifs qui avaient placé leurs fonds dans les banques suisses, mais aussi à cause du rôle des autorités suisses qui avaient fermé les frontières, empêché les Juifs d'entrer en Suisse. Et ces personnes, évidemment, avaient fini leur existence dans les camps de concentration et avaient été massacrées. Donc, il y a d'autres, je passe hein, sur les autres griefs qu'on peut faire aux autorités suisses, mais simplement, la réputation de la Suisse avait été vraiment vilipendée et une prise de conscience s'est faite à l'intérieur de la Suisse. C'est pour ça que, finalement, la proposition que nous avons faite de réhabiliter ces passeurs a été accepté. Et c'est surtout Paul Rechsteiner et moi qui avons poursuivi dans ce sens et qui avons obtenu finalement cet arrêté fédéral. Je dois dire qu'on était presque étonnés du succès qu'on avait obtenu. Mais enfin, on l'a obtenu. Je me rappelle très bien qu'en commission, y compris avec des représentants de l'UDC, finalement, ils avaient admis qu'il fallait faire quelque chose. Enfin bon, c'était probablement un brave UDC un peu plus modéré que ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais malgré tout, hostile au départ, ils s'étaient laissés convaincre. Et je pense que cet arrêté a été voté vraiment par une très, très large majorité du Parlement. Encore une fois, on était un peu étonnés du résultat, mais c'est ce qui s'est passé. Donc tout dépend un peu de la période, évidemment. Et c'est plus facile, 50 ans, 60 ans après, de réviser une opinion par rapport à des préjugés qui se répandaient de manière tout à fait unilatérale et très très forte en 1942. Maintenant, je voudrais juste rajouter une petite chose, parce que j'ai parlé peut-être trop longtemps. Je suis frappé en vous entendant, M. Stussy et vous, Mme Amhan, je suis vraiment frappé de voir à quel point la situation de la Deuxième Guerre mondiale avec ses passeurs et ses réfugiés et celle d'aujourd'hui est finalement très analogue. Et que les passeurs de la Deuxième Guerre mondiale, c'était... Il y avait un peu de tout, justement, une grande variété. Il y avait une variété dans les méthodes, il y avait une variété dans la classe sociale des passeurs. Bon, je parle de ceux qui ont été condamnés, parce que c'est ceux qu'on connaît, mais il y en avait certainement d'autres, n'est-ce pas ? Y compris, il y a certainement des réfugiés avec davantage de moyens financiers qui ont pu entrer, finalement, par des moyens légaux, semi-légaux, avec des faux papiers ou des choses de ce genre. Et on ne connaît même pas, évidemment, ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a une extrême variété. Moi, j'ai des doutes, je vous le dis franchement, sur l'importance de la grande criminalité. J'ai des doutes. C'était une autre expérience, mais j'ai appris la traite des blanches. C'était un grand mythe dans toute la communauté internationale. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu une immense enquête qui a été faite à la SDN, financée par un multimillionnaire américain, et il fallait absolument prouver que la traite des blanches existait. Eh bien, ils n'ont pas trouvé trace, n'est-ce pas ? Ça n'existe. Finalement, ils ont envoyé des enquêteurs dans tous les pays du monde et ils n'ont pas trouvé de trace vraiment d'une véritable traite humaine des blanches. Ça n'existait pas. Et ils ont cette commission internationale s'est en fait diluée. Donc, il y a des immenses montages qui, finalement, ne correspondent pas tellement à la réalité, ou pas du tout.
Merci beaucoup. C'est vraiment passionnant, ce que vous venez de dire. Et j'aimerais rebondir justement sur cette dernière remarque et la renvoyer peut-être à M. Stunzi ou Mme Amarel. Cette question, vous avez parlé de montage, on peut parler de déplacement ou d'utilisation d'une figure emblématique pour des raisons politique. Est-ce que vous avez des choses à affiner sur ça ?
Bon, ouais, je suis vraiment très intéressé d'entendre M. de Dardel sur la situation pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'effectivement, je suis assez d'accord avec lui. Il y a quand même beaucoup, finalement, de similitudes, et puis on pourra revenir peut-être sur cette question après aussi. Maintenant, sur le montage, en fait, par rapport à la question de la grande criminalité, c'est ça que vous...
Je pensais plutôt politiquement, à quoi ça sert ? Parce que la question, c'était à quoi ça sert ? Bon, pour les politiques, pour nos sociétés, pour peut-être notre conscience, on se remet dans le présent.
Bon, je pense quand même qu'on est dans une situation, et là, moi je suis quand même d'accord pour parler de crise, Madame Amarel, effectivement, par rapport à la question on est quand même dans une crise migratoire, que moi j'appellerais plutôt une crise des politiques migratoires, plutôt que crise migratoire, mais il faut quand même bien voir, effectivement, que là, on est, les États européens, ils sont dans une situation extrêmement difficile, il faut quand même aussi le voir, parce que déjà, ils ont des pressions de toutes parts, de la part d'autres États qui les appellent à plus de solidarité. Et puis, à l'intérieur de leur communauté, ils ont des pressions importantes de la part de la population pour plutôt fermer les frontières. Et puis, même aussi à l'intérieur de leurs États, ils ont aussi des pressions de groupes plutôt du côté humanitaire qui leur disent « Non, mais il ne faut pas faire n'importe quoi avec ces personnes. » Et là, on a, avec le recours à la figure du méchant passeur, quelque chose qui permet de faire un peu consensus. Parce que, d'une part, on essaye de fermer les frontières et... en s'attaquant à leurs activités, donc on montre un signe fort aussi, on essaye, disons, de montrer un signe fort de fermeture pour rassurer une partie de la population qui craint une trop forte immigration. Et puis de l'autre côté, on le dit qu'on le fait en protégeant l'intérêt des réfugiés, ces pauvres personnes qui sont maltraitées par ces passeurs. Et puis on a aussi des fois intérêt à les lier justement à des questions de grande criminalité, ou alors des aspects de traite où on a envie vraiment que ça corresponde, et ce qui est parfois, ce qui est pas toujours le cas, effectivement. Donc je crois que c'est aussi là un intérêt des États pour essayer de ménager la chèvre et le chou dans leur gestion des politiques migratoires, qui est, je le rappelle, et c'est pas facile, enfin, il faut quand même aussi bien se rendre compte, hein, les États sont face à des difficultés importantes, hein, et donc ça, c'est un aspect qui permet aussi d'expliquer cette criminalisation. C'est clair qu'aujourd'hui, après les terroristes djihadistes de Daesh, c'est les deuxièmes qui viennent comme ennemi public numéro 2, c'est les passeurs. Donc c'est clair. Ouais. Enfin, je pense que c'est une des raisons.
Ouais, merci, vraiment. Et Madame Amarel, sur ces questions-là, parce que vous êtes à l'intérieur du politique, donc comment vous voyez ces combinaisons qui se mettent en place, ces difficultés? Et comment, en tant que politique aussi, vous arrivez à vous situer et à répondre à ça?
Mais, disons, je trouve vraiment très intéressant ce qui vient d'être dit, parce que c'est vrai, juste pour terminer sur la question des passeurs et ses doutes sur la grande criminalité, c'est vrai que moi, si j'ai, pour préparer ce débat, en fait, je suis allée sur le dernier rapport du SCOT, qui est le service de coordination contre la traite d'êtres humains et les trafics de migrants. Et puis, dans ce dernier rapport 2014, qui est honnête, quoi, il y a les profils des passeurs. Et en fait, vous voyez que tous les passeurs, quand ils sont observés, en fait, surtout par les gardes frontières, c'est que des petits groupes. En fait, et c'est des petits groupes qui se rassemblent par ethnie. Donc, vous avez les passeurs de souche albanaise, les passeurs du Proche et du Moyen-Orient, les passeurs africains, les passeurs sri-lankais. Et en fait, bon, ils ont leur petit réseau de trafic de papier, de voilà, qui donne à manger à qui, etc. Ça peut être très dur, hein, comme le cas du Somalien qui a été condamné en Italie pour 30 ans de prison, parce que c'est clairement un grand criminel, hein, puisqu'il a tué 366 personnes sur son bateau. Mais même quand vous avez des très fortes condamnations et une enquête forte, il se trouve, vous avez du mal à démanteler un très grand réseau, en fait, de criminels, ce qui effectivement corrobore un petit peu les doutes sur cette espèce de grande pieuvre qu'on aurait en face, un peu mafieux, très mafieuse, avec l'idée de la mafia qu'on s'en fait. Et donc ça c'est vrai. Maintenant, comme ça a été dit, le passeur est l'ennemi public numéro 2. Jusqu'à l'automne 2015, c'était l'ennemi public numéro 1. Mais depuis, l'organisation de l'État islamique a fait en sorte qu'il soit relégué à l'ennemi public numéro 2. Mais si vous voulez, c'est des profils, c'est un sujet extrêmement sensible, et au niveau politique, il n'y a pas moyen à l'heure actuelle de justifier, légitimer l'activité des passeurs, parce qu'on est en train de réduire les voies de migration légales. C'est comme aujourd'hui dire qu'on justifie par exemple des activités terroristes. Il y a une espèce de périmètre sur lequel les politiques, on a plus de liberté quand on sort du Parlement, je m'en réjouis, mais disons, actuellement, le politiquement correct, si vous voulez, ne nous permet pas de justifier l'activité des passeurs, parce que vous faites, on se dit, on est dans un climat politique où on est dans un grand désir d'autorité. L'opinion publique, j'aime pas ce terme non plus, c'est comme les crises, l'opinion publique désire de l'autorité, ce qui pousse les politiques à additionner les postures de fermeté, quand bien même ces postures de fermeté ne conduisent en rien à des effets concrets sur le plan de l'activité de l'État. Et donc, dans cette configuration-là, aller porter un discours critique sur la question des passeurs, c'est quasiment assimilé à l'heure actuelle comme si on justifiait des activités terroristes. Malheureusement, les courts-circuits se font actuellement qui font qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de mal je dirais, à dépasser un périmètre. Vous êtes, beaucoup de politiques sont de l'autocensure. Il n'y a pas de vision critique particulière sur ces... l'académique et le post-politique, je dirais, justement avec cette vision critique qui, où vous êtes plus libre, permet quand même cela. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de casser ce plafond de verre parce que les gens ne supportent plus. Il y a vraiment aujourd'hui dire, par exemple, sur la question du principe de non-refoulement, dire qu'on ne peut pas refouler des personnes quand bien même elles ont eu des activités criminelles graves, et déjà en soi, alors que c'est l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, est déjà en soi un parcours de grand sportif, parce que c'est des choses que l'opinion publique ne supporte plus. Et donc, dans ce cadre-là, c'est pour ça que je parlais de la question du trafic de drogue, peut-être, même si effectivement c'est des trafics très différents et qu'il y a d'autres choses en jeu, peut-être qu'il faudrait prendre par cet axe-là une vision un peu plus critique, en fait, de pourquoi est-ce qu'on réprime à ce point la libre circulation des personnes qui pourtant sont en position de demande de protection internationale. Est-ce que le fait de favoriser la circulation de ces personnes qui sont en demande de protection internationale, est-ce qu'on peut appeler ça des criminels, alors que évidemment ils sont dans des captations d'avantages matériels et autres, mais plutôt que de pousser ces personnes à faire ce qu'ils font sur les bateaux comme le Somalien avec ses 633 tués, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux essayer de réguler un peu différemment les choses pour que l'État quand même puisse au moins éviter ces morts-là?
Merci beaucoup. C'est un peu déprimant. On se dit qu'on espère qu'il y aura un moment où les choses pourront se dire et au moins débattre. Je pensais qu'il y avait au moins un débat, mais d'après ce que vous dites, c'est même pas encore un débat, quoi. D'accord. Ouais. Alors, Monsieur de Dardel, un dernier mot, puis après, on va ouvrir les questions à la salle. Allez-y.
Bon, juste quelques mots. D'abord, je reconnais très volontiers que c'est beaucoup plus facile d'être courageux sur cette question quand on n'est plus au Conseil national. Non, je le reconnais tout à fait. Néanmoins, je pense quand même que dans l'action politique, il est vraiment nécessaire d'essayer de se battre pour la vérité. Ce n'est pas facile. Mais là, on est vraiment dans une imagerie qui est largement une mystification. Moi, je dis que les passeurs, ils sont nécessaires. Ils doivent exister pour que les réfugiés puissent trouver asile quelque part. S'ils ne sont pas là, il n'y a pas d'asile effectif. Donc, à partir de cette considération-là, évidemment, on doit quand même essayer d'en tirer les conséquences, y compris dans le discours, même si c'est mal ressenti au niveau de peut-être d'une majorité, effectivement, de l'opinion publique. Mais au moins, c'est peu à peu que les bonnes idées et les bonnes conceptions se répandent. C'est quand même on prend la parole sur ces questions. Deuxièmement, moi, je pense que l'analogie avec la question de la drogue, elle est juste. C'est-à-dire que c'est vraiment une situation d'interdiction qui crée une crise générale du problème. Mais il y a quand même une grande différence, n'est-ce pas ? C'est que la drogue, c'est quand même un marché florissant. C'est ça, des milliards, n'est-ce pas, qui sont accumulés. Et à vrai dire, si on libéralise la drogue, eh bien, il continuera d'y avoir une production et une consommation de drogue. Simplement, au lieu de bénéficier à des mafias, ça bénéficiera aux États. C'est toute la différence. Donc, mais je suis d'accord avec l'analogie. On se heurte à une impasse complète avec une politique de pure répression et d'interdiction.
Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un dans la salle... est-ce qu'il y a un micro qui circule ou je dois passer le mien ? C'est bon. Voilà, je crois que... Monsieur, sur la gauche, il y a deux personnes.
Pour illustrer ce que M. de Dardel vient de dire, il y a un exemple, par exemple, qui est celui du professeur Franceschetti, que nous avons bien connu, d'ailleurs ma femme aussi, qui, pendant la guerre, pendant la nuit, a tiré sous les barbelés un professeur juif qui s'appelait le professeur Mavas, qui était tellement content d'être hébergé ensuite à la clinique d'ophtalmologie, qui chantait des airs d'opéra dans le laboratoire d'histologie, puisqu'il était tellement heureux d'avoir échappé à la mort. Donc il n'y a pas que des criminels qui sont des passeurs. Le professeur Franceschetti est un monsieur très respectable, qui a d'ailleurs fait la première greffe de cornée en Suisse en 1937, juste pour citer juste un exemple. Merci.
J'ai trouvé très intéressant le parallèle avec la Seconde Guerre mondiale et les autres exemples. Mais je pense aussi c'est important de noter peut-être une grande différence, au moins dans nos esprits, parce que moi, quand je pense, on va dire, aux passeurs de la Seconde Guerre mondiale, je vais penser plutôt des gens qui vont faire ça par altruisme. Je ne vais pas réfléchir à des gens qui vont faire ça pour de l'argent. C'est peut-être faux, hein, c'est peut-être faux, mais je veux dire, dans l'esprit des gens, je ne pense pas que les passeurs soient mal vus juste parce que c'est vu comme une grosse organisation criminelle. Ils sont vus comme des gens qui se font de l'argent sur le désespoir des gens. Ça, je pense aussi, c'est une... Je veux dire, je suis tout à fait d'accord qu'ils sont nécessaires, on va dire, à l'arrivée des réfugiés, au fait qu'ils arrivent dans des endroits sûrs, mais ça n'en fait pas des gens humanitaires, humanistes, des gens qui aident d'autres. Ils profitent plutôt des désespoirs des gens, et je pense que c'est en grande partie pourquoi ils sont aussi mal vus, au moins dans l'opinion publique, comme vous dites. Mais... Enfin, c'était quand même très très intéressant de voir le parallèle. Et l'autre chose aussi, je pense la plus grosse différence, c'est la quantité, en fait, l'amplitude de la crise migratoire maintenant. Je sais pas quels étaient les nombres pendant la Seconde Guerre mondiale ou par exemple la guerre civile en Espagne, etc. Je pense que c'est quand même assez inédit d'atteindre ce flux migratoire en Europe, d'où peut-être la différence dans la perception.
Alors là, je pense que c'est très important que quelqu'un réponde. Il y a deux questions. La première, est-ce que les passeurs pendant la Deuxième Guerre mondiale n'étaient que des bienfaiteurs de l'humanité qui faisaient tout ça gratos? Et la deuxième question, c'était la quantité du flux migratoire. Enfin, proportionnellement, est-ce que c'est comparable ou pas? Je ne sais pas qui veut répondre. Ok, allez-y.
Alors pour la première question... C'est un problème qui a été soulevé justement dans les travaux du Parlement en Suisse. Et là, on a constaté qu'en fait, beaucoup de passeurs se faisaient payer. Alors, bon, nous, on était les initiateurs de cette histoire, donc on n'a pas beaucoup insisté là-dessus, ça va sans dire. Les historiens, au fond, qui étaient consultés, minimisaient un peu ces paiements. Et puis, il citait des chiffres, n'est-ce pas? Mais évidemment, le franc suisse, à l'époque, il valait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et donc, il y a eu un peu, je dois le dire, cette question n'a pas été abordée à fond de manière vraiment sérieuse. En fait, moi, je pense que les gens se faisaient payer beaucoup plus souvent qu'on veut bien le dire, y compris ceux qui ont été condamnés et qui ont été ensuite réhabilités. Mais... Alors ça, c'est un argument qu'on a développé et puis qui est juste. Il y a des risques, n'est-ce pas ? Ils risquaient leur vie, ces gens-là. Ils risquaient leur vie. C'était compliqué. Ça leur prenait des jours, des heures et des heures de près. Et c'était finalement des petits passages. Hein, parce que bon, il fallait franchir le Rhin, franchir la frontière. En Suisse, c'était des petits passages. Les passages dont on parle aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est des passages sur toute la Méditerranée. Enfin, c'est des entreprises vraiment qui sont souvent extrêmement compliquées, qui nécessitent beaucoup d'interventions humaines, beaucoup de matériel, beaucoup d'argent. Hein. Il faut dire les choses. C'est vrai que là, il y a une grosse différence. Alors, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, l'aspect d'investissement à la fois en travail humain et en matériel est plus important qu'il ne l'était à l'époque. Ça, c'est juste.
Peut-être aussi. C'est des très bonnes questions. Et puis, c'est exactement là, je crois, que vous touchez au cœur de, justement, de ces distinctions qu'on peut faire entre la situation passée et la situation actuelle. Et c'est vrai que quand j'en ai parlé avec, par exemple, ma copine, elle me disait non, mais à l'époque, ils faisaient ça de manière humanitaire. C'est ça. En fait, toute la question, elle vient de la question du profit. Est-ce qu'ils en tirent profit? Et d'ailleurs, il y a un régime juridique international qui est la convention, enfin, qui est un protocole contre le trafic illicite des migrants, qui est une annexe de la Convention générale sur la criminalité organisée, aussi juste pour vous dire dans quel cadre on se trouve, qui date de 2000. Et là, c'est spécifié que on exclut les gestes humanitaires. On spécifie que c'est pour du profit. Et par contre, au niveau européen, il y a une directive qui prend tout en compte, qui criminalise aussi les actions plutôt humanitaires qui font fi de tout profit. Mais effectivement, ça, c'est une question importante. Et moi, j'aurais aussi du mal à croire que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils faisaient ça tout à fait de manière complètement désintéressée. Donc ça, c'est quand même... J'ai l'impression que c'est pas une distinction qui est fondamentalement juste. Donc, et puis effectivement, comme vous dites, peut-être que les passages sont plus compliqués à organiser maintenant, même si on se rend compte aussi, en faisant un peu des recherches, que ça se passe beaucoup par petits trajets, en fait, fragmentés. Et c'est aussi ça qui augmente d'ailleurs la vulnérabilité des migrants. Parce qu'ils risquent d'être pris, d'être enlevés sur des petits trajets, etc., qui sont la grande majorité des cas. Il y a des fois des full packages qui sont organisés, mais c'est beaucoup plus rare. Mais disons qu'il y a aussi maintenant des petits trajets et ça nécessite quand même de l'argent, ça c'est clair. Maintenant, c'est vrai que l'autre différence, à mon avis, importante est la question des flux. On avait des flux peut-être moins importants, effectivement, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je parle de la Suisse, là, peut-être... Mais c'est en même temps difficile à dire parce qu'on sait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des mouvements de population qui représentaient des millions de personnes. Et d'ailleurs, on dit que maintenant, on a une crise migratoire qui équivaut à celle qu'on avait durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est là non plus, on a tendance à dire oui, les flux étaient plus importants, mais quand on y regarde de plus près, c'est pas certain. Et puis moi, je me dis, enfin j'y réfléchis aussi, et qu'est-ce qui fait qu'on criminalise beaucoup plus aujourd'hui? Ben, c'est vrai que le regard sur le passé, à l'époque, ils étaient considérés comme des criminels. Donc peut-être que, qui sait, dans 50 ans, on se dira, on va réhabiliter ces passeurs-là, en fait. Je ne sais pas, il faut peut-être avoir un peu d'espoir. Parce que c'est clair que les personnes qui fuient actuellement les conflits, ils sont tout aussi légitimes dans leur fuite que les Juifs, je pense. Enfin, ils fuient des situations tout aussi extrêmes. Maintenant, il y a peut-être aussi une autre chose, c'est que, mais là, c'est peut-être un peu provocateur, c'est que les passeurs dont M. de Dardel parle, c'est les nôtres, c'est des Suisses. Tandis que les passeurs, maintenant, dont on parle, ils sont liés, c'est des étrangers, ils représentent en tout cas une figure de l'altérité qui est peut-être un peu, qui en fait des boucs émissaires. Mais c'est peut-être pas là qu'il faut chercher la réponse, je ne sais pas. Enfin.
Je crois que vous vouliez juste réagir, Madame Amarel.
Moi, je dirais que ce qui est très difficile dans ce débat, c'est qu'on est... On a ces images très fortes, notamment des personnes mortes dans un frigo. On a des témoignages d'une cruauté quand même extrêmement forte hein, de certains passeurs, notamment pour passer la Méditerranée, le fait qu'ils sont au milieu de la mer... ils doivent changer de bateau et puis effectivement il y a des histoires d'une cruauté absolue, moi je dois dire, mais en même temps on a des histoires très humaines dans le même temps, et je pense que ce qui va être très difficile dans toute cette affaire, compte tenu du nombre de personnes concernées, compte tenu du caractère très hétéroclite de toutes ces trajectoires, ça va être de tracer une ligne cohérente pour faire une balance entre la nécessité à un moment donné d'avoir ces activités-là, parce qu'il y a des personnes en demande de protection internationale, on a supprimé les demandes d'asile aux ambassades, Donc, je veux dire, les gens, plutôt que de crever, ils partent et puis ils font une trajectoire au risque de se noyer 1000 fois. Et puis ils le font avec, ma foi, ces personnes-là qui, quelles que soient leurs intentions, eh bien, ont pu aussi sauver des vies, concrètement. Donc, et puis en même temps, vous avez ces témoignages extrêmement cruels de viols, de personnes asphyxiées, de personnes qui sont spoliées jusqu'au plus près de leur corps. Et c'est vrai que c'est très difficile, je pense, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, avec des médias, des réseaux sociaux, des véhicules médiatiques très, très forts, de pouvoir se positionner, y compris politiquement, de la manière la plus juste possible. Moi, je dois vous dire, moi, j'ai reçu sur ce Sonatel-là des téléphones de personnes qui étaient coincées dans les plages de Lesbos parce qu'ils ont vu sur Internet mon numéro de portable. Et je veux dire, cette complexité-là, vous l'aurez jamais, vous l'aviez jamais il y a 60 ans. Et ça, on a le fait d'avoir des parallèles avec l'histoire est extrêmement important et enrichissant. Mais il y a quand même des problématiques qui nous échappent et sur lesquelles on n'a pas la bonne grille d'analyse encore actuellement.
Merci. Je crois qu'il y avait d'autres questions, madame.
Je voulais juste réagir à ce qui s'était dit au sujet du gain obtenu par des passeurs. Parce que c'est comme si tout à coup on disait, du moment qu'ils gagnent de l'argent, alors c'est pas humanitaire. Et puis on peut se poser la question sur ces profils dont Robin nous a parlé, et par rapport aussi à la grande criminalité. Est-ce qu'on retrouve parmi ces passeurs dont vous avez pu connaître l'histoire, des gens qui ont fait fortune ? Parce qu'il y a quand même cette question-là, de gagner de l'argent, ça vous empêche pas de faire un geste humain. Et puis, il y a des gens qui ont besoin de vivre et de se nourrir, et puis qui vont passer effectivement du temps pour faire telle ou telle action. Et si moi, je choisis de faire une action illégale, j'ai quand même besoin de me nourrir aussi, enfin, que j'estime éthique. Est-ce que ça en fait un geste qui est moins humanitaire, ou alors est-ce que les gestes humanitaires ne sont réservés qu'aux personnes qui sont suffisamment riches pour ne pas avoir besoin de gagner leur vie en travaillant ? Voilà.
Oui, vous voulez réagir ?
Votre observation est tout à fait pertinente. Moi, je trouve aussi que, disons, et d'ailleurs, quand on a réhabilité les passeurs de la Deuxième Guerre mondiale, c'est quelque chose qui a été dit exactement dans le sens de vos paroles. C'est-à-dire que, finalement, des gens qui vivent modestement, s'ils font ce travail, c'est normal qu'ils demandent de l'argent. Bon, je dis simplement, c'est vrai que peut-être qu'on a minimisé un peu les sommes qu'ils demandaient, mais ils n'ont pas fait fortune. Personne n'a fait fortune, peut-être. Ou alors, si certains ont fait fortune, ça ne se sait pas. C'est des gens peut-être mais ça s'est passé de manière différente. Ils ont vendu des papiers, des faux papiers par exemple, pour des sommes énormes, n'est-ce pas ? Mais ça, c'est un passage administratif, si je puis dire, n'est-ce pas ? Donc, et de la même manière, aujourd'hui, ça doit se passer. C'est-à-dire que certains réfugiés qui ont des gros moyens peuvent se payer des voyages avec des faux papiers ou avec des visas qui leur sont délivrés, par exemple, par la corruption, n'est-ce pas ? Mais ça, c'est encore autre chose. C'est pas les fameux passeurs dont tout le monde parle.
Une remarque, hein ?
Juste une petite remarque, c'est vrai, on a beaucoup parlé des pêcheurs italiens qui avaient été d'ailleurs condamnés c'était dans toute l'affaire Mare Nostrum, parce que les pêcheurs italiens, ils pêchaient et puis ils voyaient les personnes se noyaient, donc ils les reprenaient dans leur bateau et puis ils se faisaient condamner. Alors eux, ils étaient considérés un peu comme des justes. Mais en fait, il n'y avait pas grande différence entre le pêcheur libyen qui utilisait son bateau puis qui faisait payer son voyage pour. Et franchement, là, je pense qu'on est dans justement cette limite un peu poreuse sur le fait que le gain pour le. Comment dire, il est. dans certaines situations relativement accessoires. Je pense que pour ce type de personnes, je pense que le profil était, le geste était similaire entre le pêcheur italien et le pêcheur libyen. Simplement, c'est vrai que la criminalisation, l'image qu'on en fait, le fait qu'ils viennent d'ethnies de provenance géographique différente, qu'ils soient du mauvais ou du bon côté de la Méditerranée, changeait en fait la perception qu'on avait.
Merci. Je trouve très intéressant, et j'avais envie de souligner cet aspect justement de la différence entre... j'entendais cette mademoiselle là qui... L'imprégnation du discours finalement des méchants passeurs. Effectivement, il y a des passeurs qui jettent les gens à la mer s'il y a des policiers qui les poursuivent, parce que comme ça ralentit... J'ai entendu ça, une histoire. C'était un passeur albanais qui était accessoirement aussi trafiquant de plein d'autres choses, mais qui vivait cette activité-là de passeur entre l'Albanie, ça c'était pendant la guerre du Kosovo, de l'Albanie à l'Italie, comme son activité humanitaire. C'était pas les armes, c'était pas la drogue, c'était son business humanitaire. Il gagnait de l'argent avec ça, mais si il risquait de se faire attraper lui ou ses hommes par la police, il n'hésitait pas à jeter un migrant à la mer, parce que dans ce cas-là, la navette de police ne pouvait décemment pas laisser la personne se noyer, s'arrêtait et permettait aux autres de filer. Donc ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a aussi une zone grise, même pour ceux qui font commerce de cette passe, où on est entre le service, le travail, sauver sa peau. Voilà, c'est des gammes, quand on regarde les cas vraiment individuels, qui ne sont pas faciles à estimer. Monsieur. Encore une question, après, ce sera à vous. Merci.
Donc déjà, moi, j'ai un petit problème à la base, c'est de mettre tous les passeurs dans le même panier, en fait, parce qu'il y a des passeurs qui sortent du pays pour fuir la guerre. Après, il y en a d'autres qui sont juste là pour les faire traverser de la Turquie à la Grèce. Et ce n'est pas forcément dans une idée de les faire fuir la Syrie pour les Syriens ou les Afghans. Ce n'est pas pour les faire fuir leur pays qu'ils font ça. C'est juste parce qu'ils sont là et qu'il y a un passage. Et puis, c'est plus profiteur, sans être responsable pour autant, ni être humaniste pour autant. Donc, c'est ni noir ni blanc. Et puis après, ensuite aussi, on a les témoignages, qu'on prend des témoignages ici, on a des témoignages que des vivants, ceux qui sont arrivés en vie. Donc ceux qui sont morts, qui ont été maltraités, ben, on ne peut pas prendre leurs témoignages. Et ça fait un biais où, justement, on a l'impression que ceux qui arrivent ici, ben, ils ont tous été plus ou moins bien traités par leurs passeurs. Et après aussi, au niveau des profils de passeurs, ceux qui font passer la Méditerranée depuis la Libye ou depuis la Turquie, ce n'est pas forcément non plus les mêmes profils. En Libye, il y a aussi de la traite. C'est entre la traite aussi et le passeur, parce que pour faire payer leur traversée, ben, ils sont employés et exploités pendant 2-3 mois, voire plus, enfermés dans des caves. Et ce sont des passeurs qui les font traverser après, c'est très ambigu, c'est pas forcément totalement humanitaire, totalement profiteur. Il y a vraiment quelque chose à nuancer plutôt que chercher à dire ils sont humanitaires ou ils sont profiteurs, responsables de tout ça. Et puis... Oui, il y a aussi une évolution des témoignages qu'on a eu quand même. Désolé si je parle beaucoup, parce que avant les témoignages qu'on arrivait à voir, les passeurs, ils s'en foutaient complètement si les migrants arrivaient de l'autre côté, ils payaient avant. Alors que maintenant, on voit de plus en plus la moitié qui est payée avant et la moitié qui est payée après en arrivant sur sol européen. Et ça, justement, ça vient. Ils sont un peu plus responsables maintenant, c'est un peu plus sophistiqué le moyen de paiement, et c'est plus des migrants qui sont balancés dans la mer, et après ils n'ont aucun intérêt à ce qu'ils soient en vie de l'autre côté. Alors qu'à la base, ben, surtout en Libye, ils achetaient un bateau, un vieux bateau qui qui était limite déjà en train de couler, et puis ils le remplissaient au maximum, et puis après, ben, advienne que pourra, ils avaient déjà encaissé l'argent.
Merci, merci de vos remarques. Est-ce que moi je m'adresserai, pour, je pense à Monsieur Stunzi pour ses réponses. D'une part sur ces allégations d'exploitation en Libye, hein, et puis d'autre part sur est-ce que c'est seulement maintenant que ça a changé le modus operandi du paiement un peu plus sécurisé, ou c'est ça a toujours été comme ça. Enfin, est-ce que vous avez des précisions à apporter là-dessus?
Non, je pense que je remercie. Enfin, c'est juste ce qui a été dit, c'est-à-dire, et puis c'est aussi d'ailleurs un des buts pour lesquels on a fait cette table ronde, c'est aussi justement de montrer toutes les variétés, toutes les, et puis de montrer aussi justement les degrés de responsabilité différents, toutes les activités aussi qu'il peut y avoir derrière ce phénomène-là, en disant pas simplement les passeurs, ce sont des criminels, ou, etc. Et le but de cette table ronde, à mon avis, c'était aussi justement de pouvoir varier. Et je crois que, c'est vrai, une des... Alors, on parlait avant de la question du profit, qui était un peu... souvent dans les discours un peu centrales, qui était un nœud. Et puis cette question effectivement de l'exploitation des gens, hein, ça c'est clair qui choque particulièrement, Madame Amarelle en parlait avant, les mauvais traitements qui sont infligés pendant ou avant, à différentes étapes des trajets, c'est une réalité. Et puis ça, je crois qu'il faut effectivement le dire. Et c'est ça en fait aussi la distinction qu'on peut opérer, que j'opérais déjà d'emblée entre trafic, enfin de passeurs, et puis plutôt de la traite, et des fois on se retrouve avec une distinction aussi dans la réalité qui s'évapore, qui s'estompe, où on a des activités qui sont à la limite entre les deux, et ça c'est clair que sur la route des migrations, on a des routes qui sont vraiment particulièrement épouvantable. Et puis je rappellerai peut-être un cas qui est vraiment connu et qui est vraiment épouvantable, c'est celui des Érythréens qui se font enlever par des groupes de bédouins du Sinaï et qui se font torturer jusqu'à ce qu'ils payent une rançon qui s'élève à 30 000, voire 50 000 dollars. Et ça, c'est vraiment des histoires épouvantables. Mais là, on est dans des activités de traite. Et puis,
ce ne sont pas des passeurs.
Ce sont des passeurs, justement, des criminels, mais qui profitent aussi d'activités de passeurs qui les livrent à ces personnes-là. Et donc là, c'est vrai que la frontière est assez floue, et puis c'est vrai qu'il faut rappeler ça. Maintenant, juste sur le deuxième aspect, en vitesse, je ne me souviens plus, mais je voulais juste dire quelque chose sur Oui, ah oui, non, sur les paiements aussi. Sur les paiements, est-ce que c'est nouveau ou pas? Alors, on a, et puis ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant, on a beaucoup de cas, surtout en Afrique, dans ces, de paiements à l'avance, et ça, c'est la porte ouverte à toutes sortes d'abus. Mais ce qu'on a vu avec cette ouverture-là de la route, plutôt par la Turquie, la Grèce, etc., c'est qu'on a vu réactiver, activer à ce moment-là, un système mis en place qui est traditionnel, qui est millénaire, qui s'appelle le hawala, où on a des personnes, ça a fonctionné pour les Afghans, les Syriens, etc., qui vont dans une agence payer leur trajet, 1000 euros en l'occurrence, pour la Turquie jusqu'à la Grèce, et puis ils vont dans une sorte d'agence, et après, quand ils arrivent en sécurité en Grèce, ils débloquent, ils donnent un code, et puis l'agence débloque les fonds pour le smuggler. C'est une sorte d'assurance comme ça, informelle, qui a été remis, qui date du Moyen-Âge dans cette région-là, de transactions financières, en fait, qui a été réactivée, et puis on voit que ça a amené quand même plus de sécurité sur cette route. Alors après, il y a eu des morts l'année passée, et c'est des morts de trop, c'est inacceptable, mais par rapport au nombre de personnes qui sont arrivées, 850 000, on estime environ, par cette route-là, il y a eu 800 morts, et par la Méditerranée centrale, on a eu 150 000 personnes environ qui sont arrivées, on a eu 3500 morts. Donc, c'est des morts de trop, hein, qu'on s'entende bien, mais la route a été quand même relativement beaucoup plus sûr, en fait, par cette route des Balkans et de la Turquie, aussi parce qu'il y avait ce système-là qui a été mis en place.
Merci. Je crois que monsieur, vous vouliez poser une question. Je crois qu'il y a le micro juste derrière.
D'accord. Merci. Voilà, une question par rapport à la phrase que j'ai retenue de M. de Dardel en parlant de la nécessité d'avoir des migrants, des passeurs, pardon. Donc, c'est, pour moi, c'est une phrase assez forte. Honnêtement, j'attendais que les autres membres du panel puissent réagir, peut-être, si possible, s'opposer ou confirmer, ou infirmer. Mais bon, voilà, je ne sais pas si ce silence est une approbation ou une désapprobation, je ne sais rien. Mais c'est quand même une déclaration sur le terrain politique suisse assez importante. Alors, est-ce que, donc je vous ramène à cette phrase, est-ce qu'il y a un espace en Suisse pour un débat sur cette question de nécessité d'avoir des passeurs pour des migrants? Est-ce qu'on pouvait voilà. Monsieur Dardel a déclaré justement que les migrants devaient justement avoir des passeurs parce que c'était nécessaire. Et j'aimerais justement avoir la réaction des autres membres du panel sur cette affirmation. Voilà.
Merci beaucoup. Madame Amarelle, je crois que c'est à vous.
Il l'a dit, s'il n'y a pas de passeur, il n'y a pas d'asile. Donc, c'est tout à fait clair. De là à légitimer les passeurs, c'est un peu sensible. Mais je dirais que politiquement, ce qu'il faut faire, c'est libéraliser les voies de migration légale. Et c'est intéressant ce qu'a dit aussi Robin Stunzi. C'est que finalement, moi, quand il a expliqué le nouveau mécanisme pour la question du remboursement en fait de la passe, on va dire comme ça, ça me fait penser à ses débuts quand on a sur le marché de la drogue. Je ne veux pas faire tout le temps le parallèle, mais on passe d'un système totalement répressif à un système qui, effectivement, petit à petit, entre guillemets, s'institutionnalise. On essaye de trouver des solutions pour sécuriser ces routes. Et d'une certaine manière, les passeurs, moi, j'ai été en Slovénie, j'ai été dans les plages de Lesbos, j'ai été voir un peu ce qui se passait là-bas. Je n'ai pas tout vu, évidemment, mais je vois bien qu'entrer en contact avec les passeurs sans légitimer leur activité, hein, ce n'est pas ça. Mais, par exemple, essayer de débloquer, par exemple, il y avait des histoires avec des bateaux qui ne démarraient pas si le bateau n'était pas surplein, etc. Le fait que des institutionnels essayent d'entrer, non pas en contact direct, mais de discuter pour que les choses se fassent de manière moins brutale. Etc. Ça, c'est des choses qu'on peut faire, disons. Simplement, c'est un tel tabou, la question des passeurs, parce qu'évidemment, on en revient à l'ennemi public numéro 1 ou 2, que c'est évidemment très difficile d'investir le débat public de manière frontale sur cette question. Par contre, le fait de dire qu'il faut une libéralisation des voies de migration légale et que ça passe aussi par le fait d'assouplir un tout petit peu et en particulier les liens avec le fait de pouvoir discuter avec des passeurs, de leur dire non mais ça il faut pas faire, qu'il y ait des ONG qui le fassent, qu'il y ait des institutionnels qui puissent le faire, ça moi je pense que c'est absolument essentiel. Mais comme il l'a dit, il n'y a pas d'asile sans passeurs en ce moment. On a parlé des suppressions des demandes d'asile aux ambassades. Si, disons, l'idéal serait qu'on puisse se passer des passeurs, si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots, mais le problème, c'est qu'actuellement, les routes sont fermées. Il y a des murs électroniques. Il y a tout est fait actuellement dans tous les pays européens. On parle beaucoup de contrôle des frontières, mais ces contrôles, ils sont quasiment des fermetures. Je veux dire, les jeux qu'on fait en Hongrie et en Slovénie, notamment sur les pseudo-contrôles, c'est des vraies fermetures. Il y a des barbelés, les gens ne peuvent pas entrer. Il n'y a pas de voies, de petites voies pour entrer. Il y a beaucoup de jeux. les gens sont pris en otage entre la brutalité parfois des passeurs et le jeu absolument infect que font certains douaniers, parce qu'il faut aussi parler des douaniers. Ceux qui bloquent, j'en ai fait partie, quand vous arrivez avec des camions, avec des habits, juste pour faire en sorte que les enfants ne soient pas en hypothermie, quand vous arrivez avec des défibrillateurs dans les plages de Lesbos, ou quand vous arrivez avec ce type de matériel, c'est pas les passeurs qui vous empêchent de faire le travail humanitaire, c'est les douaniers qui vous bloquent des camions, etc. Et c'est quand même l'État qui fait ça. C'est pas les réseaux, c'est l'État qui fait ça. L'État en question, c'était soit l'État grec, soit l'État slovène, soit etc. Donc, si vous voulez ce qu'il faudrait, c'est mettre un terme à cette espèce de dynamique archi malsaine qui gangrène en fait la question de la circulation des hommes, des femmes autour de cette crispation qu'on a sur la circulation des gens qui sont en demande de protection internationale.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui ?
Bonsoir. Justement, je voulais profiter de rebondir là-dessus sur ce que font les pays en Europe, ce que font les pays en Europe. Parce que quand on voit, par exemple, la Hongrie, elle ferme ses frontières avec des barbelés, que la Bulgarie enferme des Syriens et des Afghans, dont des enfants, dans des prisons qui ne sont pas légales. Hein, puis on a une association, on l'a vu sur place, on l'a vécu. C'est des choses qui sont cachées. Et en fait, on parle ce soir des passeurs, mais en fait, j'ai un peu l'impression qu'on ignore les vrais coupables, quoi. L'Europe qui laisse crever les gens sur le pas de la porte, sur leur paillasson, qui ferme les yeux, qui ferme la porte, qui fait rien pour les aider. L'Europe qui respecte pas ses obligations et les différents traités qu'ils ont signés. La Grèce, par exemple, justement, là, j'ai une anecdote assez sympa dernièrement, parce que là, j'ai une famille syrienne qui vit chez moi, donc j'ai vraiment les sources hyper fiables. Ils sont arrivés par la Grèce, donc un avocat qui est arrivé directement par la Grèce. Ils ont dû signer, en fait, une décharge pour dire combien de temps ils restaient sur place. Et lui, il est resté 3 jours en Grèce, mais la Grèce lui a fait signer un truc comme quoi il était resté, je crois, 1 mois ou 2. Donc je pense sincèrement qu'il y a un petit peu tout le monde qui en profite, tout le monde trouve son compte là-dedans, et puis je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, parce que justement, ça profite en fait à tout le monde, et puis on fait porter le chapeau aux passeurs, mais je crois pas vraiment que ce soit eux qui méritent d'être accablés directement, même si pour moi ça reste quand même des gros enfoirés, parce qu'ils font ce qui leur est utile à eux, et puis ils en ont rien à foutre des gens. Enfin, excusez-moi, je parle de manière un peu spontanée, mais je crois qu'il faut arrêter un petit peu justement toute cette hypocrisie. Il faut voir les choses comme elles sont. L'Europe ferme les portes, elle laisse mourir les gens, et puis maintenant c'est pas sur les passeurs qu'on doit se concentrer, je crois. Voilà.
Merci beaucoup. Je crois que cette question était au cœur de cette table ronde. Je l'avais mentionné au début. Je suis très contente qu'on termine dessus, parce que je pense que le déplacement de la figure diabolique du passeur, elle est utile à beaucoup de gens. Je suis assez d'accord avec vous. Je crois que Madame Amarelle a envie de rebondir aussi dessus. Hein.
Non, mais moi, je salue au fait tout le travail que vous faites, parce que effectivement, il y a des ONG où il y a des jeunes, parce que on parle souvent des jeunes UDC. Il faut juste savoir qu'il y a des très grands élans qui sont faits par le biais de notamment d'ONG comme Human Nation et d'autres. Mais c'est vrai, moi, franchement, que j'ai été à Lampedusa, ou bien dans ces régions que vous connaissez aussi très bien, ben, disons, c'est toujours la même histoire. Et puis la population, elle se plaint, en fait, toujours des mêmes choses, c'est-à-dire, quand elle voit dans la pratique comment ça se passe, elle voit bien que finalement, les choses ne sont pas si claires et que les passeurs, les douaniers, il y a toute une espèce d'ambiance et de climat où finalement tout le monde essaye de tirer. On peut plus être bon dans ces régions. Il y a évidemment des élans totalement gratuits du pêcheur italien et tout, mais le climat est tellement pourri, c'est comme dans un, comme pendant la guerre où finalement tout le monde est comment dire gangréné par ce climat où finalement les hommes ne sont plus vraiment des hommes et puis tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu, mais tout est déjà pourri quoi. Et dans certaines régions, y compris d'Europe, c'est devenu un peu ça. Donc le fait de focaliser sur les passeurs est devenu quelque chose d'artificiel complètement.
Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore une dernière question ou une remarque. Merci.
Par la Grèce, par le sud de l'Italie, par voilà, la Turquie. Puis tout ça, c'est des pays qui n'ont pas de l'argent, n'ont pas le pouvoir de pouvoir faire les choses bien. Donc je me demande si on dit que c'est la Grèce qui est la coulpable, moi, ce n'est pas vrai. Enfin, l'Europe, elle a aussi un grand impact là. On ne peut pas laisser ces pays lutter avec ces choses sans se rendre compte qu'elles n'ont pas le pouvoir, le pouvoir économique, politique, de bien changer
Je crois que votre remarque est très juste et c'est pour ça aussi qu'on avait parlé au début de cette table ronde de la crise majeure qu'on vit. Pas seulement la crise des migrants, mais ce qu'elle provoque, c'est-à-dire la crise européenne de fond. Elle met en lumière quand même des fragilités et des risques énormes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou si M. Stutzi a quelque chose à ajouter sur cette question, sur les politiques migratoires européennes.
Oui, peut-être rapidement, mais je pense que ça a été beaucoup déjà discuté. On est quand même clairement, dans ce que j'appelle une crise des politiques migratoires, et non seulement une crise des réfugiés, mais des politiques migratoires, parce que c'est une crise de la manière de gérer la migration qui est là au cœur de notre débat. Et puis, mais peut-être encore juste une chose par rapport à ce qu'a dit aussi Madame avant, et avec son ton, le ton assez virulent que je partage en partie, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que cette situation-là, elle est en Europe, elle a été travaillée depuis 20 ans, environ 20 ans, c'est-à-dire qu'on est dans cette hypocrisie où on dit, si vous arrivez sur notre territoire, vous avez droit à l'asile, bien sûr, c'est un droit, mais on fera tout ce qu'on pourra pour vous empêcher de poser le pied sur notre territoire. Et ça, ces politiques-là, elles ont été mises en place dans les années 90. Pour l'instant, sur ces 20 dernières années, on n'y a pas fait énormément attention, à part quand il y avait un grand drame à Lampedusa ou dans la Méditerranée, etc. Et c'est cette année, en 2015, quand tout à coup, il y a beaucoup plus de personnes qui arrivent, on dit « attention, c'est la crise, c'est l'horreur, etc., c'est la catastrophe ». Mais cette situation-là, elle a été créée depuis une vingtaine d'années avec des politiques de visa, d'exigence de visa pour les personnes qui ne peuvent pas les obtenir, par des politiques justement que Mme Amarelle évoquait de « carrier sanctions », où on fait porter la responsabilité du contrôle aux entreprises de transport. Et toute cette politique-là, elle a mené, et puis ça, on a tendance à l'oublier, à environ une trentaine de milliers de morts déjà depuis 20 ans. Donc cette crise-là, elle est fabriquée depuis longtemps, en fait. Et elle vient de cette hypocrisie-là de « vous avez le droit à l'asile, mais on fera tout pour vous empêcher d'arriver ».
Merci beaucoup. Merci à vous trois de ces éclairages que personnellement, j'ai trouvé très intéressants, passionnants. Et qui ont éclairé une dimension éthique et politique majeure de cette crise. Et non seulement pour les vies qui sont en jeu en ce moment et à l'avenir, mais je pense aussi pour la santé démocratique de notre société. Voilà, merci beaucoup. Je crois qu'il y a des documents à disposition du public pour plus de renseignements. Merci. Voilà. Au revoir.
Juste rapidement, merci. Juste encore deux petits mots avant de conclure. Au nom du comité des cafés scientifiques, je vous remercie de bien vouloir remplir les petits questionnaires, si vous pouvez prendre juste quelques minutes, qui sont un petit peu partout sur les tables. J'en ai distribué aussi. C'est juste pour nous permettre de savoir un peu quel est le profil de notre public et comment vous êtes informés pour venir assister à ces cafés scientifiques. Autre chose aussi, je profite de cette thématique ici pour vous inviter à regarder aussi les petits dépliants qui sont là sur NCCR On The Move. Le NCCR, c'est un pôle de recherche national sur la migration et la mobilité. Une des scientifiques qui est ici présente, d'ailleurs, c'est Madame Cécile Amarel. Voilà, à Neuchâtel, il y a ce pôle de recherche nationale. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous servir. C'est les dépliants blancs qui sont sur les tables. Voilà, le prochain café scientifique, on parlera urbanisme, ville durable, ville misogyne, le mercredi 17 février. Voilà un titre étonnant. Je vous invite donc à venir le mois prochain, ici même. Bonne soirée et bon retour chez vous. Merci.